BW. Vue d'Allemagne.
Le 20 juillet 1944, une date qui a failli changer le cours de l'histoire. Il y a 75 ans, des militaires allemands ont tenté d'assassiner Adolf Hitler pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Retour dans un instant sur cette opération Valkyrie. Dans la deuxième partie de ce magazine, on vous emmène pour une virée touristique à Lisbonne. La capitale portugaise accueille plusieurs millions de visiteurs chaque année, une affluence qui cause des problèmes aux habitants. Vous écoutez bien Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue.
Il faut tuer Hitler.
Je peux compter sur vous.
On peut résoudre tous les problèmes sur cette terre par un usage méthodique des explosifs.
Un extrait du film Valkyrie de Bryan Singer, sorti en 2009. Une interprétation très hollywoodienne de l'attentat mené par des officiers de la Wehrmacht, l'armée allemande, pour tuer Adolf Hitler. Le film a eu plus de succès que l'opération qui visait à renverser le régime nazi.
Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez plus fort que la marche de l'histoire ?
Le 20 juillet 1944, à 12h42, une bombe explose dans le quartier général de Prusse-Orientale, où Hitler et son état-major sont réunis. La bombe, cachée dans un porte-document, a été placée par le colonel Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Né en 1907 dans une famille de la noblesse souabe, celui-ci avait dans un premier temps accueilli favorablement l'arrivée des nazis suite à l'humiliation du traité de Versailles en 1919. Mais lorsque les premières synagogues brûlent en 1938, von Stauffenberg commence à changer d'avis sur Hitler. L'officier qui poursuit sa carrière militaire dans la Wehrmacht perd un œil lors d'une mission en Afrique. Il se retrouve affecté au quartier général du Führer, une position idéale pour mettre à exécution un plan qui mûrit depuis longtemps en secret dans les cercles conservateurs allemands, assassiner Adolf Hitler et prendre le pouvoir. Les conjurés, civils et militaires, prévoient de détourner l'opération Valkyrie, un plan d'urgence élaboré par les nazis pour permettre à l'armée de réprimer une éventuelle insurrection. Le nom fait référence à un célèbre opéra de Wagner, le compositeur préféré de Hitler, lui-même inspiré de la mythologie germanique. Ce 20 juillet 1944, Klaus Schenk Graf von Stauffenberg prend l'avion pour Berlin, persuadé que la bombe qui vient d'exploser a rempli sa mission. Mais Hitler s'en sort avec de simples égratignures. La grande table en chêne et les fenêtres grandes ouvertes en cette journée estivale ont dévié le souffle de l'explosion. L'opération Valkyrie prend du retard, certains conspirateurs abandonnent par peur d'être découverts. Le soir du 20 juillet, le coup d'État a officiellement échoué. La radio n'en parle même pas lorsqu'elle évoque l'attentat contre Hitler.
Le Führer a été visé aujourd'hui par un attentat. Le Führer n'a pas été blessé, excepté de légères brûlures et contusions. Il a aussitôt repris le travail et, comme prévu, il a reçu le Duce pour une longue réunion.
Le soir même, von Stauffenberg et de nombreux autres conspirateurs sont arrêtés et fusillés. Au cours des mois qui suivent, plus d'un millier d'hommes et de femmes sont jetés en prison pour leur participation supposée au complot. Environ 200 d'entre eux seront condamnés à mort. Pour l'historien Wolfgang Benz, c'est la défection des hauts gradés de l'armée qui a causé l'échec du coup d'État.
Il aurait fallu qu'au moins un d'entre eux, comme Erwin Rommel, se mette en avant pour que le peuple dise « Ah, Rommel voit aussi que Hitler est un criminel ».
Il a fallu beaucoup de temps après la fin de la guerre pour que les initiateurs du 20 juillet ne soient plus considérés comme des traîtres. Mais von Stauffenberg et ses alliés ont fini par obtenir à titre posthume le statut officiel de héros. Des rues, des écoles et des casernes portent leur nom. Des drapeaux sont hissés sur les bâtiments officiels le 20 juillet. La Bundeswehr, l'armée de la République fédérale allemande, se réfère à l'ancien officier de la Wehrmacht. Mais il y a aussi des voix critiques, notamment sur le moment choisi par les conjurés pour mettre leur plan à exécution, 6 semaines après le débarquement des Alliés en Normandie. Certains historiens, dont Wolfgang Benz, estiment que le groupe a voulu sauver les meubles alors que la débâcle de l'Allemagne était prévisible.
L'Holocauste ne les intéressait absolument pas. C'était surtout la guerre qui était en train d'être perdue, qui comptait pour les militaires. Ils ont voulu éviter les dommages pour l'Allemagne en se débarrassant du mauvais gouvernement pour pouvoir dire aux Alliés « nous voulions absolument faire la paix ».
D'autres historiens soulignent que von Stauffenberg était loin d'être un démocrate. Si l'attentat avait réussi, il aurait probablement prôné une autre forme d'autoritarisme pour l'Allemagne. C'est sans doute la raison pour laquelle l'extrême droite allemande revendique elle aussi l'héritage de Klaus Schenkgraf von Stauffenberg. Le 20 juillet 2018, une affiche du parti AfD avec un portrait du colonel rappelait que la désobéissance civile et la réflexion critique sont des devoirs citoyens. Dans leur manifestation, les partisans du mouvement islamophobe Pegida agite régulièrement un drapeau créé par un des conspirateurs du 20 juillet, une récupération inadmissible selon Wolfgang Benz.
De toutes les façons, l'Allemagne serait redevenue un état de droit, mais pas une démocratie telle qu'elle est décrite dans notre loi fondamentale. Ce n'était pas comme ça que l'envisageaient les conspirateurs du 20 juillet et leurs sympathisants.
Le 20 juillet 1944 est une date symbole en Allemagne car elle est la tentative la plus spectaculaire de mettre fin au régime nazi. Mais selon Wolfgang Benz, on aurait tort de limiter la résistance allemande à ce seul événement. D'autres résistants sont mentionnés dans les livres d'histoire. Georg Elser, un menuisier communiste qui a fait exploser une bombe artisanale le 8 novembre 1939 dans une brasserie où étaient réunis les principaux dirigeants nazis. Mais Hitler avait quitté la salle 13 minutes avant l'explosion. Ou encore Hans et Sophie Scholl, un frère et une sœur à origine du mouvement étudiant Weiße Rose, Rose Blanche, qui distribuait des tracts de résistance à Munich en 1942 et 43. Et puis il y a les résistants de l'ombre, issus de la politique, de l'église ou de la société civile, qui ont agi au niveau local, par exemple en aidant à cacher des juifs pendant la guerre. Malheureusement, trop peu nombreux pour renverser le régime d'Adolf Hitler.
Ihr habt geschrien, wo alle schwiegen. Es ging ums Tun und nicht ums Siegen.
On change de pays et d'époque pour cette deuxième partie de Vue d'Allemagne. Ici, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les vacances scolaires ont commencé il y a quelques jours et de nombreux Allemands ont fait leurs valises pour partir au soleil, direction le sud et pourquoi pas le Portugal. Le tourisme y représente désormais 13% du PIB, une manne financière après la terrible crise économique de 2010. Mais la pression immobilière et la flambée des prix provoquent le phénomène de touristification, le trop-plein de tourisme et son corollaire, la gentrification. À l'instar de Venise, Barcelone ou Berlin, la capitale portugaise souffre. Peuplée de 500 000 habitants, elle a reçu 6 millions de visiteurs en 2018. C'est trop, comme nous le montre ce reportage de notre correspondante Marilyn Darcy.
Le bruit caractéristique des roulettes des valises sur les petits pavés de Lisbonne ponctue le quotidien des habitants d'Alfama. Dans ce quartier estampillé, le plus typique de Lisbonne, les touristes sont désormais quasiment entre eux. Avec la crise des années 2011-2014, la mairie, propriétaire de nombreux logements d'Alfama, a dû s'en séparer. La porte ouverte à la spéculation, selon Lourdes Pinheiro, responsable de l'APA, une association de défense du quartier.
La mairie n'intervient pas sur le choix des acquéreurs de son patrimoine. En principe, et c'est vrai, il y a des règles. Une personne peut prétendre acheter un immeuble ou un appartement pour y habiter. C'est d'ailleurs ainsi qu'est conçu le programme Réhabiliter d'abord, payer ensuite. Sauf que sans contrôle, ce ne sont plus les individus qui achètent, mais des sociétés immobilières qui investissent.
Si en 2013, Alfama comptait 43 logements pour touristes, aujourd'hui, on en a répertorié 5000. Tout l'hypercentre touristique de Lisbonne est gagné par la touristification. Luís Mendes, géographe, spécialiste de ces questions.
Il faut bien comprendre que le processus est différent ici à Lisbonne, car ça a été très rapide. Quelques dirigeants politiques ont bien alerté sur la saturation touristique, la touristification sans l'empêcher. Lisbonne est une toute petite ville, si on la compare à Paris, Londres ou Berlin. Proportionnellement à sa dimension, l'impact est très important.
Pour le professeur de géographie et d'urbanisme à la faculté de Lisbonne, la rapidité du phénomène, alliée à l'absence de garde-fous, a précipité le déséquilibre. Pire, en 2012, la nouvelle loi sur le logement a libéralisé les loyers, provoquant une vague d'expulsion dans le but de récupérer et transformer les appartements. Carla Pinheiro a subi la menace de l'expulsion.
Dans notre immeuble, on a tous reçu la lettre du propriétaire disant qu'il ne renouvellerait pas le contrat de location. On a bien essayé de trouver d'autres appartements, mais c'est impossible. Les loyers sont à partir de 450 ou 500 euros. Moi, je paie 300 euros de loyer et je gagne le salaire minimum, 600 euros.
Des lois tardives pour tenter d'enrayer le phénomène ont été publiées, comme celles qui protègent les personnes âgées des expulsions. Et désormais, les autorisations pour les logements touristiques sont suspendues dans l'hypercentre lisboète. Miguel Coelho, le maire de l'arrondissement de Santa Maria Maior, dont dépend Alfama, est allé plus loin. Il a ouvert une ligne téléphonique pour dénoncer les logements touristiques clandestins. Miguel Coelho.
Nós estamos num estado democrático, num estado de direito.
Nous vivons en démocratie, dans un état de droit, et on observe une injustice et même de la délation de la part des investisseurs et des propriétaires qui n'hésitent pas à expulser les habitants en recourant parfois même au harcèlement. Les gens ont le droit de se défendre. L'état démocratique doit se défendre. C'est de l'autodéfense. Et puis ceux qui respectent les règles dans l'activité immobilière locale n'ont rien à redouter.
Le maire d'arrondissement a conscience que c'est peut-être un peu tard.
C'est évident, ça a pris du temps. Mais si on n'avait pas pris la mesure, l'exode de la population continuerait sans fin. Au moins, on peut tenter d'arrêter l'hémorragie. Nous rejetons la désertification quasi totale. Sinon, c'est la mort de la poule aux œufs d'or.
À Lisbonne et Porto, les prix flambent. Louer est devenu difficile. Eric, étudiant en doctorat, ne peut pas quitter l'appartement familial.
Je voudrais trouver une maison à côté de chez ma mère. J'ai ma mère qui habite à côté de ma grand-mère aussi, qui devient vieille, et puis de temps en temps, je vais chez elle pour l'aider. Et c'est pas possible pour moi de trouver même une chambre qui soit à côté. Il faut que je change de ville. Il faut que j'aille vivre de l'autre côté du fleuve, et ça va me prendre une heure et demie pour arriver chez ma mère si jamais il y a quelque chose.
Lisbonne fait peau neuve, c'est vrai, mais les beaux immeubles ne sont plus accessibles aux habitants, rejetés en périphérie, où l'on s'inquiète de plus en plus de voir ressurgir les bidonvilles. Les Portugais espèrent que la nouvelle loi sur le logement mettra un frein à l'hémorragie.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, c'est Hugo Flotatalon que vous retrouverez à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss. Landschaft ist auch